Bon, ben alors si on a tout dit là-dessus, écoutez, on va parler d'autre chose, parce que tout à l'heure, effectivement, on a évoqué cette phrase à tout le moins malheureuse, ou en tout cas polémique, d'Alexis Corbière en ce qui concerne les commémorations de Samuel Paty. Il se trouve qu'Alexis Corbière était l'invité de BFM il y a quelques instants, et voilà ce qu'il dit à présent.
Préciser une chose, que les choses soient claires, Samuel Paty, son cours était irréprochable. Samuel Paty était un bon enseignant. La polémique qui est née d'une jeune fille qui n'avait pas participé à son cours et qui a menti à son père et qui a fait croire qu'il y avait eu un problème. Et à partir de là, des provocateurs extérieurs à l'établissement scolaire sont venus et un fou, un assassin islamiste est venu assassiner Samuel Paty. Donc je n'ai jamais prononcé, je ne prononcerai jamais une moindre critique vis-à-vis de Samuel Paty. Deuxièmement, je suis moi-même enseignant, prof en lycée professionnel depuis 25 ans. Les collègues, évidemment, ont peur et sont inquiets. Après, J'aurais trop de temps. Il y avait une discussion sur un document pédagogique. Comment ça fonctionne? Un sondage de la Fondation Jean Jaurès qui dit qu'un enseignant sur deux ne peut plus faire cours. Sondage erroné, en vérité, qui n'exprime pas ça. Et je disais, en classe, quand on est en classe, un document pédagogique doit toujours être adapté à l'âge d'un élève. Il y a des choses qu'on montre pas, qu'on essaie de, pour faire comprendre, pour créer de la transmission et de l'éducation. Et en l'occurrence, il y avait une discussion qui était née d'un monde de Blanquer qu'il faudrait montrer tous les dessins de Charlie Hebdo. Je dis, moi, ça dépend de l'âge. C'est tout ce que je dis.
C'est tout ce que je dis, ouais. Dit Alexis Corbière.
En gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a les mollets extrêmement musclés parce qu'il est en train de rétro-pédaler, mais en beauté, en splendeur. Déjà, premier principe, c'est quand on est obligé de venir réexpliquer ce qu'on a dit la veille parce que c'était pas clair et parce que machin, Alexis Corbière est pas né hier, il sait très bien ce qu'il dit.
Pour remettre les choses dans leur contexte, il était invité de BFM, en l'occurrence pour parler de Mélenchon qui tenait son discours ce matin. Donc j'imagine que Jean-Baptiste Boursier, évidemment, a saisi la balle au bon, comme on dit, pour lui poser la question là-dessus.
Il a rétro-pédalé en beauté et encore une fois, il explique qu'on n'a pas compris ce qu'il a dit. Et puis après, si on écoute la suite de l'extrait, il dit que c'est une tentative du PS alliée à Valeurs Actuelles pour venir déformer ses propos. Enfin, l'extrait est assez long quand même sur tout ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que très bien, et tant mieux qu'il réexplique ses propos, tant mieux qu'il réexplique où il se situe dans le champ républicain. Mais encore une fois, par rapport à l'affaire Samuel Paty, sur laquelle il était interrogé sur la première prise de parole, je ne vois pas pourquoi il vient parler d'un matériel pédagogique qui n'est pas adapté aux élèves de Samuel Paty. Et c'est en ça que ça pose problème. Maintenant qu'il soit revenu sur ses paroles et qu'il réexplique que non, Samuel Paty n'était pas à l'origine de cette décapitation, très bien, franchement, ça va. Mais bon, permettez-moi d'en douter un peu.
Amine El Khatmi.
Oui, je suis d'accord avec ce qu'il vient d'être dit. C'est assez facile, vous savez, c'est toujours la même chose.
Je suis pas sûr que ce soit facile. Hein. Sur un plateau de télévision, quand on a un homme politique, de dire « en fait, c'est pas ce que je voulais dire »,
Parce qu'ils le font à chaque fois. C'est toujours la même stratégie, c'est-à-dire qu'on sort un propos choquant qui provoque un tollé là en l'occurrence général. On réduit ce tollé à l'extrême droite, puisque c'est exactement ce qu'il fait. Donc en gros, c'est une polémique soulevée par l'extrême droite. Bah non, c'est pas une polémique soulevée par l'extrême droite. Il y a plein de gens qui sont sincèrement choqués. Et ensuite, on dit non, mais mon propos, c'était pas ce que je voulais dire. Ou la fameuse phrase, c'est sorti de son contexte. Bah on n'est pas débile en fait, on comprend un tenu propos à oral, on a compris ce que ça veut dire et ses propos sont clairs. Et encore une fois, ce serait la première sortie dans le même genre, dans ce genre-là, de cette famille politique-là. On pourrait dire, bah, effectivement, Alexis Corbière est de bonne foi, on va le croire. Mais ça vient
Alexis
à la suite de déclarations dans le même genre de Jean-Luc Mélenchon. Il faut quand même rappeler que Danielle Obono, sa collègue à l'Assemblée, elle publie un texte le 11 janvier 2015, pas un an après les attentats, pas trois ans, pas 5 ans, le 11 janvier 2015, où elle dit qu'elle ne va pas manifester dans les rues de Paris parce que les dessins de Charlie Hebdo sont des dessins racistes. Mmh. Des gens ont été assassinés 4 jours auparavant pour le même motif, parce que des islamistes leur expliquaient que leurs dessins étaient racistes et islamophobes, et elle reprend cette logorée-là et cette rhétorique-là 4 jours après pour justifier qu'elle ne participe pas à la manifestation en soutien à Charlie Hebdo.
C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le fameux « ils l'ont cherché », c'est
mais
ça ?
Voilà, ils l'ont un peu cherché et on justifie, il y a eu d'autres propos tenus dans le même genre. Bon, moi, voilà, je reste sur ma première position.
On sent un peu votre écœurement, Amine El Khatmi. Alexandre Devecchio.
Je partage l'écœurement sur LFI, hein, sur la France Insoumise, qui a vraiment un problème avec ces questions-là. Après, je pense qu'Alexis Corbière, ce que je disais tout à l'heure, fait partie de ceux qui étaient plutôt sur une ligne républicaine et qui sont tiraillés entre suivre la nouvelle ligne du parti, qui est une ligne clairement communautariste, clientéliste, et leur propre ligne. Donc, je pense qu'il est peut-être sincère dans sa rectification, même ce qui est intéressant, c'est que ça traduit vraiment toutes les ambiguïtés de ce parti sur cette question-là.
Frédéric.
Oui, c'est vrai que quand on regarde l'offre électorale présidentielle, Fabien Roussel est absolument irréprochable sur ces questions-là. Anne Hidalgo également. Yannick Jadot n'est pas sur la ligne Sandrine Rousseau, c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'y a que Jean-Luc Mélenchon où il y a une heure. Peut-être des éléments d'ambiguïté sur ces questions, cette ligne Corbière, même si, moi, à titre personnel, le début de son intervention, lorsqu'il a l'air tout à fait sincère, mais voilà, je ne vais pas sonder sa conscience, on sonde déjà suffisamment les Français, je ne vais pas aller jusqu'à dire il a raison, il a tort, il vient calculer des choses. Maintenant, c'est vrai
nouvelle entité à l'IFOP.
C'est vrai qu'il y a une impression, et c'est vrai par rapport à ce qu'on s'est dit au début, les difficultés de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi ce problème où on a beaucoup d'électeurs de gauche qui sont attachés à la question laïque. 85% des Français considèrent que la laïcité est menacée en France. Il y a une fracture générationnelle, certes, mais du côté de l'ensemble des Français, il y a quand même un consensus. Le sentiment que la ligne Obono, si je puis dire, l'a emporté sur la ligne Corbière. Et c'est vrai que c'est difficile.
C'est très intéressant. C'est 85%.
Oui, tout à fait.
Comment ils sont découpés? C'est-à-dire que 85% des Français pensent que la laïcité est menacée.
C'était une enquête IFOP fiduciale pour le JDD de juillet dernier. On a ce sentiment, et d'ailleurs le sentiment de déclin que les Français ont, c'est aussi le sentiment que les grands principes républicains, les grandes institutions républicaines sont en danger ou sont menacées.
Mais alors expliquez-moi comment est-ce qu'on est à la fois défenseur de cette laïcité selon les chiffres, 85%.
C'est très majoritaire à gauche, y compris dans l'électorat présidentiel de 2017, Jean-Luc Mélenchon.
Et d'un autre côté, il y a quand même des adversaires de cette laïcité qui n'arrêtent pas de dire que la laïcité, ça ne permet pas de vivre sa propre religion. Et je ne parle pas forcément d'une religion en question.
Non, mais vous avez raison, vous soulignez un paradoxe qui est très étonnant. Et qui montre l'incroyable lâcheté, je dirais, des politiques, de l'appareil d'État parfois. Alors des élus dans certaines communes, c'est plus problématique parce que dans certains territoires, il y a une population qui est réellement hostile à la laïcité. Mais en tout cas, pour ce qui est de territoire national, c'est vrai qu'il y a une immense majorité des électeurs qui, sur ces questions-là, il y a un consensus. Or, en réalité, les politiques sont soumis à la tyrannie de minorités politisées, d'associations qui leur font peur, sont terrorisées à l'idée d'être traitées de racistes, d'islamophobes, et donc ils cèdent à des gens qui en représentent très peu. Et c'est aussi la folie de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a coûté extrêmement cher, pour séduire des gens qui sont minoritaires, il va perdre énormément de gens qui votaient pour lui. Donc ça, c'est une stratégie qui, à mon avis, est suicidaire de la part des politiques, qui part souvent de la lâcheté, parfois de calcul électoral, comme c'est le cas, à mon avis, à la France Insoumise, et qui souvent se retourne contre les politiques eux-mêmes.
Prisca Thévenot.
Je vais rejoindre ce qui vient d'être dit. C'est effectivement une démarche extrêmement politique et absolument pas sur des sujets d'engagement. Puisque ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est qu'on est assez étonné, mais maintenant on le constate depuis maintenant plusieurs mois, hein, c'est pas tout nouveau, mais que cette gauche représentée par Jean-Luc Mélenchon en a oublié ses engagements pour courir après les voix. Et là, ce qu'on voit très justement, c'est qu'il y a un peu un sauf qui peut qui s'annonce, parce que 2022 risque d'être potentiellement la dernière échéance présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon. Donc ils essaient d'avoir très, on va dire les choses, un vote communautaire. Sauf que, on a bien vu, ça ne fonctionnait pas. Et surtout qu'ils partent du principe que, simplement en venant jouer, en surfant sur des idées qui sont anti-républicaines, ça va fonctionner. Et en réalité, la communauté qu'ils visent, qui est la communauté, disons-le franchement, musulmane, ne fonctionne pas comme ça. On l'a vu ne serait-ce qu'au dernier... Alors, je vais faire un raccourci et puis vous me direz si j'ai complètement tort, mais on l'a vu notamment aux dernières élections européennes, où il y a eu une liste démocrate des musulmans français. Elle a recueilli moins de 1%. Donc, je veux dire, le vote communautaire, je veux bien, mais c'est complètement fantasmé, ce sujet-là. Et d'ailleurs, sur les sujets sur lesquels Mélenchon essaie d'un peu de se retourner le dos en permanence, les premières victimes sont les Français de confession musulmane. Donc en fait, il finit par en oublier même les...
C'est contre-productif, vous
voilà,
voulez dire.
C'est contre-productif, et donc il perd cet électorat-là, mais il perd aussi l'électorat de gauche traditionnel qui est à gauche aussi et surtout pour des valeurs républicaines, dont la laïcité.
Mais alors cette laïcité, on en parlait ce week-end justement, qu'on essaye d'enseigner, certains disent, attendez, on va d'abord apprendre aux élèves à apprendre à compter et à lire, c'est peut-être plus important que la laïcité, et on arrive quand même à un espèce, on parlait d'un paradoxe, mais presque, je reprends votre phrase, Amine, de la ligne de crête, où on marche comme ça tâtonnement sur cette laïcité, qu'on finalement n'arrive pas à enseigner. C'est quand même assez abrutissant, non ?
Le problème, c'est que derrière ce mot laïcité...
Il y a tout.
Oui, et ouais. L'ensemble des Français, ou ouais. plutôt les plus de 35 ans de l'autre, et les plus jeunes, mettent des termes complètement différents.
On met ce qu'on veut.
Non,
c'est alors, le shopping.
Alors,
non,
les jeunes, et ce sont des ouais. séries d'enquêtes que l'IFOP a menées pour la fondation Jean Jaurès, les jeunes considèrent que là, la question laïque, le principe laïque, c'est assurer la liberté de conscience et mettre les religions sur un pied d'égalité, donc d'une plus grande visibilité, alors que le grand public, ou les générations un peu plus anciennes, c'est séparer le politique du religieux et faire reculer l'influence des religions dans l'espace public. On a vraiment deux définitions très très différentes. Et cette question du wokisme, cette question de fracture au sein
ça a l'air de vous énerver, le wokisme.
Non,
chaque fois, ça revient dans votre discours.
Non,
le wokisme,
parce que c'est quelque chose qui est vraiment, qui commence, alors ce qui n'est pas majoritaire dans le pays, loin de là, mais qui est que sur cette question, par rapport à des sujets du passé où il y avait une guerre des générations, mais un débat, un conflit d'arguments, on est sur un sujet sur lequel chacun est dans son couloir, chacun ne comprend pas l'autre et il n'y a plus de débat. Et c'est particulièrement dangereux, si je puis dire.
Alexandre, je pense qu'il y a aussi, je l'abordais un peu tout à l'heure, une différence entre l'échelon local et l'échelon national, et ça explique aussi la stratégie contre-productive de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'après les élections présidentielles, ils ont gagné un certain nombre de législatives en banlieue. Et ils se sont dit que l'électorat de banlieue était un électorat communautariste, etc., et que leur avenir était là. Et ça traduit, c'est pas vrai, mais il y a quand même, c'est en partie vrai quand je disais qu'à l'échelon local, il y a aussi, je pense aux élus locaux, aux maires, etc., beaucoup sont tentés de faire des entorses à la laïcité parce qu'il y a une population, disons-le comme ça, majoritairement musulmane, qu'à l'intérieur de cette population, il y a 10 minorités actives qui font la pression pour avoir des accommodements raisonnables. Et c'est vrai que là, il y a un certain nombre de politiques à l'échelon local qui sont tentés de faire de lourdes concessions.
Oui, mais je partage tout ce qui vient d'être dit. Simplement, la différence, et c'est là, à mon avis, que les dirigeants de la France insoumise font une énorme erreur d'analyse et de stratégie, c'est que ce qui est vrai à l'échelle d'une ville où le ralliement de trois imams et de quatre présidents d'associations qui vous ramènent 500 voix...
Avec une abstention très forte.
Où 500 voix de plus peuvent faire une élection, ce n'est absolument pas réalisable à l'échelle
nationale.
Et donc c'est là que cette stratégie est une impasse, parce que non seulement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne va pas récupérer les voix escomptées, mais en plus, ça va lui faire perdre des voix de gens qui sont des laïcs et qui sont choqués de cette stratégie, qui ont voté pour Mélenchon la dernière fois et qui là diront on ne peut pas voter pour lui.
Oui, non, mais j'allais rejoindre pourquoi je disais non à l'échelle locale, parce que oui, je comprends tout à fait votre logique et elle se voit dans les faits dans certaines villes. Mais n'oublions pas que souvent et de plus en plus, et ça il faut vraiment le dire, les élections très locales, alors que c'est quand même celle qui
intéresse,
il y a énormément d'abstention. Et donc c'est vrai qu'en allant chercher un leader d'opinion, etc., en le brossant dans le sens du poil, ça peut marcher. Mais en réalité, on voit que ça désintéresse de plus en plus et que ça vient fragiliser aussi la légitimité d'un gouvernant, que ce soit au niveau local qu'au niveau national. Donc sur ça, pour moi, Jean-Luc Mélenchon risque de faire encore mais pire que ce qu'il a fait en 2017. Parce qu'il est en train de perdre sa base et qu'il est en train de surfer.
Ça, on est d'accord sur l'erreur, l'erreur stratégique. Je disais juste que la question de la laïcité pouvait se poser à l'échelon local.
Bien
et que
sûr,
beaucoup d'élus,
sûr.
Qui d'ailleurs peuvent parfois avoir un discours à l'échelon national qui est haut, sont tentés de faire des concessions, d'instrumentaliser des entrepreneurs identitaires, disons-le comme ça, voire des radicaux réellement dangereux pour être élus sur une élection où effectivement il y a beaucoup d'abstention.
Alexandre Devecchio, Frédéric Dabi, Amine El-Khatmi et Prisca Thévenot sont avec nous jusqu'à 20h. Les débats d'Europe Soir reviennent dans un petit instant.